La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la basse marche que je vais consacrer aujourd'hui au passage et au chemin jadis en basse marche. Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages ou les articles suivants. Au temps des routes blanches de Bernard Stéphane, La fin des terroirs de Jeanne Weber, Histoire de cieux d'Albert Hiverneau, La société rurale en Limousin et basse marche d'Albert Gourceau, Pleine terre de Charles Sylvestre, La monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles de Roger de Rouault, Une enfance de Jules Marouzeau, Les passages de Maurice Robert et L'enfant sous les charmes de Paul Lavergne.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.
Au début du 19e siècle, à Saint-Maurice-la-Souterraine, dans la Creuse, les routes étaient si mauvaises que les villageois avaient du mal à mener leurs morts au cimetière. Même le bétail peinait pour se frayer un chemin, à plus forte raison les gens. Les cas ne sont pas rares où l'on voit la diligence s'arrêter et les voyageurs terminaient le voyage à pied sur de mauvais sentiers muletiers où l'escalade fait quelquefois aussi partie des surprises. Ajoutons cet autre exemple. Il fallait parfois 3 à 4 heures aux paysans pour aller de leur ferme au chef-lieu de canton où avait lieu la foire mensuelle. Autant pour rentrer. Rien n'incitait donc les ruraux à multiplier les visites à la ville, d'autant plus que les chemins n'étaient pas sûrs. On le voit donc, en basse marche, comme dans la plus grande partie de la France rurale, les paysans ne se déplacent que dans leur écocentre, tant qu'ils peuvent entendre le son de la cloche de leur village. Ils se déplacent à pied, marchent en sous-bois, dans les forêts, parce qu'elles sont souvent mieux entretenues que les chemins et aussi sûres. Songeons que l'écrivain Eugène Weber confirme qu'en 1900, dans certains villages du centre de la France, des populations n'avaient jamais vu de véhicule à roues. Le portage se faisait avec des ânes bâtés. C'est souvent alors le passage d'un détachement militaire qui fait découvrir la charrette ou la carriole. Nous pourrions multiplier les exemples concernant l'état lamentable des routes et des chemins au XVIIIe siècle. Citer Jean de La Fontaine lors de son voyage à Bellac ou Pierre Robert à propos de l'état des routes dans la zone du Dorat. Un dernier exemple qui concerne la commune de Cieux que nous fournit Albert Hiverneau et nous sommes au XVIIe siècle. Le bourg ne profite pas alors pleinement de sa situation de chef-lieu car les voies de communication sont très insuffisantes. Pas une seule route ne traverse la paroisse. Chaque village est bien relié au bourg et presque toujours au village voisin par des chemins, mais ceux-ci sont en trop mauvais état pour assurer la circulation, sans aucun pont, même dans le bourg, même sur les chemins les plus fréquentés. Si les routes sont souvent absentes, les chemins, eux, sont nombreux et divers. Les sentes, les sentiers, les chemins, les chaussées, mais aussi les chemins spécifiques, ceux des pèlerinages, des processions, ceux qui conduisaient aux fontaines à guérison, les sentiers des mariages ou des enterrements, les chemins des militaires, les chemins des champs, les chemins de traverse, les chemins charretiers, les chemins des piétons, les raccourcis des villages et des hameaux, les chemins temporaires comme les chemins de jachère et les chemins permanents. Pour que ces chemins aient une continuité, il faut des ponts, des planches, des passages à guet, des sautadours, des clôtures, des barrières, des charreaux.
Allons-y, soyez des gerbes, suivez-moi.
tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Écoutons maintenant Albert Gourceau nous présenter le problème des circulations et des transports dans son ouvrage « La société rurale en Limousin et basse marche ». Tandis que son voisin, l'artisan, ne quitte qu'exceptionnellement sa boutique, l'agriculteur doit sans arrêt se déplacer d'un bout à l'autre de son exploitation. Tantôt il s'agit de transporter le fumier et les engrais de la ferme au champ, tantôt de ramener les récoltes de ses terres, la litière de sa lande, les fagots et les bûches de ses bois. En outre, il doit se rendre fréquemment au bourg pour porter son matériel à réparer et aux foires du voisinage pour acheter et vendre ses bêtes. Albert Gourceau nous précise ce que sont les chemins de campagne. C'est un chemin creux qui est rarement tracé suivant la ligne droite. Il ne fonce pas à travers le terroir communal pour remplir un office déterminé par son point de départ et son point d'arrivée. Non, il s'attarde, au contraire, en contours singuliers. Il enveloppe ce champ, il évite ce bois, il ruse avec la pente, il va faire un long détour pour se rapprocher de cette maison. Il se déroule comme une volute autour de toutes les œuvres humaines qui créent la campagne. La plupart de ces chemins de desserte rurale sont la survivance des voies primitives qui ne furent pas simplement des voies de communication et de transport, mais aussi comme la base du morcellement parcellaire, l'élément essentiel dans l'aménagement du territoire. Tel qu'il se présente aujourd'hui, ce vieux chemin est une voie étroite, laissant tout juste le passage à la charrette fourragère. Il est bordé de hauts talus portant de grandes haies de prunelliers, d'aubépines, de houx et de coudriers, avec, de place en place, de grands chênes têtards dans lesquels, à la saison, viennent nicher les geais et les tourterelles. De loin en loin, ces haies sont coupées d'une petite clairière fermée par une barrière à claire-voie si légère qu'un enfant la manœuvre sans difficulté. La plupart de ces chemins s'arrêtent à la lisière des bois, sans doute, dont les châtaigneraies où les arbres sont espacés d'au moins 10 mètres les uns des autres, se voient parfois des pistes douteuses ayant l'apparence d'un chemin, mais 2 ou 3 ans après qu'on les a repérées, on est tout surpris de les retrouver un peu plus loin, à droite ou à gauche, sur un sol plus régulier. Il fallait beaucoup d'indulgence pour qualifier de carrossable ces chemins. Même au cœur de l'été, il n'était pas rare d'y rencontrer de véritables fondrières remplies d'un mélange de boue et d'eau noirâtre dans lesquelles bêtes et gens risquaient à chaque instant de s'embourber. Mais, un peu plus loin, c'était une bosse qui se présentait, affleurement rocheux que les siècles avaient laissé intact. Aussi, il fallait toute l'attention et toute l'habileté du conducteur pour guider son char sans accroc jusqu'au chemin plaigné. On ne saurait dire que l'entretien de ces voies fut complètement négligé, car l'hiver, chacun s'efforçait de combler les fondrières et d'élaguer les haies touchant sa propriété. Mais l'affaire, pour être menée à bien, aurait nécessité un effort collectif et simultané auquel les paysans avait perdu l'habitude de se soumettre.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Suivons maintenant Charles Sylvestre qui emprunte le chemin qui conduit à Bellefond. Ce soir, je vais à Bellefond chez Gilbert. Il faut prendre par le plus long. Le sentier s'en va, bordé de fougères et de genêts. Les plantes s'embrasent. Il y a partout des flammes de fleurs qui éclairent une immense solitude. Ça et là, des châtaigneraies se dressent près de rochers dorés de lichen. Il faut marcher vers l'autre pente de la vallée, traverser un pont de bois qui enjambe une rivière à truites et gravir un versant broussailleux. Des bosquets de houx ne cessent de miroiter. Des genévriers ont des myriades d'aiguilles pour une seule pointe. Et l'on voit luire entre les pierres une herbe sombre et glissante. Plus de sentier ni de piste. Le vent promène une odeur de bruyère chaude. À l'ombre de hauts rochers se pressent les prunelliers qui blanchissent en avril et les érelles myrtilles aux rameaux ailés aux feuilles dentelées et fines, d'où ruisselleront à la saison prochaine les fruits qu'on appelle raisins des bois. Une clarté bouge dans un emmêlement de ramilles et plus loin, un taillis de chênes s'ordonne à merveille, interrompt la sauvagerie. Le pays est moins crispé. Les fourrés d'épines et de ronces aux lanières barbelées se desserrent. Voici les pièces de blé nouveau et les herbages qui entourent la maison de Gilbert. Parmi les chemins de terre, certains sont quasi permanents et d'autres sont temporaires. Les chemins permanents sont des voies herbeuses relativement droites qui traversaient les champs et que l'on devinait grâce aux deux ornières que les roues des charrettes avaient creusées de chaque côté et aux rubans étroits de sol dénudé que les passants avaient tracés au milieu. Ces chemins n'étaient pour ainsi dire jamais entretenus, mais comme ils n'étaient fréquentés que par quelques usagers, personne ne se plaignait de leur mauvais état. Quant aux chemins temporaires, écrit Maurice Robert, il s'agit souvent de chemins de jachère, de passage à travers les prés, ceux-là ne pouvant être utilisés qu'une fois la récolte faite, ceci à partir de la Saint-Jean, que l'herbe soit coupée ou non. Il s'agissait de servitudes de passage accordées à un seul fond, et pour un temps déterminé, par exemple, le temps des semailles ou le temps des moissons. On imagine que cette pratique était la source de nombreux conflits entre riverains, voire même de procès.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Jusqu'à présent, nous parlions d'itinéraires agricoles, mais il y a aussi les itinéraires spécifiques ou mystérieux. Nous avons déjà, au cours d'émissions précédentes, parlé de ceux qui permettent de se rendre vers les bonnes fontaines à guérison. Ceux qu'empruntent les nombreuses processions comme la procession des neuf lieux de la région de Magnac-Laval. Ceux qu'empruntent les convois funéraires ou les cortèges des mariages. Dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Roger Drouot nous parle certes du chemin des mulets, de Champagnac aux forges de Mondon pour le transport du minerai et de la castine. Il s'intéresse aussi au chemin du bétail que l'on conduisait à pied à Paris, chemins auprès desquels on trouvait d'immenses granges destinées à abriter les troupeaux pendant la nuit. Il nous cite aussi les chemins qu'empruntaient les migrants paveurs et les maçons qui se rendaient à pied travailler à Paris. Mais il insiste également sur les chemins des processions. Les processions étaient autrefois fréquentes et certaines suivaient des itinéraires bien déterminés et souvent fort long. Les voies qu'elles empruntaient étaient désignées sous le nom de « chemin de la procession ». C'est ainsi que nous avons relevé à Saint-Sulpice, en 1503, le chemin qu'ont fait les processions tendant du cimetière à la croix de l'Ormeau. À Lussac, Lussac-les-Églises, en 1523 et 1631, le chemin qu'ont fait la procession des lundis. Toujours à Lussac, mais en 1637, le chemin qu'ont fait la procession de Notre-Dame. D'ailleurs, en 1784, le chemin de Lussac à Saint-Martin, Saint-Martin-le-Mont, est appelé chemin de la procession. Au Chézeau, en 1521, on trouve le chemin par lequel les payeurs font le jour de la procession. À Arnac, en 1740, le chemin qu'ont fait la procession du Saint-Sacrement et de la Sainte Vierge. Etc. etc.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Au dessous du pont, juste en dessous du pont, il y a des poissons nageant dans la rivière. Au dessus du pont, juste en dessous du pont, il y a des oiseaux voletant dans l'air. Et puis sur le pont, juste assis sur le pont, il y a Marie et il y a Jean-Pierre qui parlent d'amour et de papillons. tendant la main, sans en avoir l'air, qui parle d'amour et de papillons, comme firent avant eux d'autres amours.
Dans cet extrait de Une enfance, Jules Marouzeau nous indique quelques-uns des passages qui permettent d'assurer la continuité des chemins. Jules Marouzeau revient chez lui à Fleurat. Le train nous laisse à 10 km du village. Nous allons à pied en prenant les traverses qui nous jettent tout de suite en plein champ. La nature est fidèle au rendez-vous du souvenir. Je sais qu'à la montée du chemin, il y a un hêtre fourchu. La deuxième planche du gué a un trou rond qui laisse voir un clair fond de cailloux. Au tournant, je vais entendre la bergère qui, sous un genévrier, chante à ses brebis. Là où le chemin franchit l'échalier à trois barreaux, il y a un noisetier vêtu de chèvrefeuilles. Le dernier pré a des bourbiers où l'on s'enfonce. Et il faut passer par la terre d'en dessus. Nous reprenons la route, là où le fossé est luisant de glaise. Au sommet de la côte, à gauche du tilleul, va sortir la pointe du clocher et déjà, du village, encore invisible, monte le tintement de l'enclume du maréchal. Maurice Robert, pour sa part, nous donne 7 termes fréquemment usités pour désigner les passages. Le goulet, qui est un passage étroit et bas, souvent dissimulé, pratiqué à travers la haie par les animaux domestiques. La charrue, c'est une ouverture pratiquée par les bovins ou les chevaux sur toute la hauteur de la haie vive. Par extension, c'est aussi l'entrée d'un champ qu'utilisent les attelages. Lorsque le passage est plus étroit, c'est une gazille ou une charrière. Le sautadour, c'est une barre de bois placée horizontalement en travers d'une haie basse à 80 cm du sol et que l'on franchit en sautant. L'échaillie ou l'échalie ou l'échalier est une petite échelle simple ou double placée dans une haie qui permet le passage d'une parcelle à l'autre. L'eau clé d'eau est une clé ou clôture mobile, naguère faite de branches entrelacées, placées sur une voie temporaire ou permanente. La quiède, comme le quiédou, est une petite barrière en bois à claire-voie faisant communiquer la cour et les érages avec le jardin ou le couder. Maurice Robert nous fait remarquer qu'au cours des temps, on s'est mis à utiliser charreau pour clé d'eau et sautadour pour échailler. Il nous précise que la planche, mot utilisé dans l'ouest de notre zone, est un tronc d'arbre ou un demi-tronc d'arbre jeté en travers d'un cours d'eau pour en permettre le passage. Sur ces chemins, les hommes circulent à pied et bien souvent on utilisait le portage humain. Le portage sur la tête ou en balance sur les épaules est assez rare. Par contre, on utilisait le bissac, en particulier pour aller à la ville. En fait, c'était un sac de toile cousu à ses deux extrémités, formant ainsi 2 poches. Il était fendu en long et au milieu. Pour porter le bissac, on le jetait sur l'épaule, ce qui faisait que l'on avait un sac devant et un autre derrière, d'où son nom. En basse marche, on utilisait surtout la hotte. Celle-ci, qui était fabriquée en osier, était encore fréquemment utilisée dans la région de Château-Pontsac et de Rancon dans les années 1960. On l'appelait Bonatte à Arnac-la-Poste, à Gajoubert, à Lussac, à Mayac, à Saint-Hilaire-la-Treille, Banatte à Baldancieux, Château-Pontsac ou Dompierre-les-Églises, Banâtre à La Croix-sur-Gartempe, Oradour-Saint-Genès, Peyrade-Bellac ou Thiat. Elle servait à tout transporter. Le bois, l'herbe pour la nourriture des animaux, les feuilles mortes pour leur litière, les légumes, les animaux de petite taille et même le linge. Car nous explique Maurice Robert, les femmes partaient avec ce linge dans la hotte qui, ont les abords de la rivière trop vaseux ou trop abrupts, interdisaient pratiquement l'usage de la brouette. Elle revenait avec toujours dans la hotte le linge mouillé et le dos trempé.
et grandes histoires de la basse marche.
Le roulage humain, pour sa part, s'appuie essentiellement sur la brouette et le charretou. La brouette servait pour les circulations à l'intérieur de la ferme ou dans les environs immédiats. Elle était fabriquée par les charrons. On en trouvait de plusieurs sortes. Des brouettes spéciales et basses pour porter le fumier. Les grandes brouettes dont se servaient les hommes et les plus petites brouettes destinées aux femmes et aux enfants pour porter le linge à la rivière ou rentrer une brassée de fourrage. Quant au charretou, Albert Gourceau nous précise que c'est une caisse de dimension réduite montée sur deux roues. Elle était prolongée vers l'avant par deux brancards droits réunis par une petite traverse. C'est entre ces brancards que prenait place le rouleur. On l'utilisait pour toutes sortes de transports, pour les charges moyennes, mais encore pour des courses sur des distances déjà importantes. Précisons que dans le passé, le charretou remplaçait parfois le tombereau dans les familles pauvres qui ne possédaient aucun animal de trait. Le portage animal n'était pas très fréquent en basse marche. Cependant, les muletiers qui effectuaient les transports pour les anciens maîtres de forge, et particulièrement dans la zone de Mondon, utilisaient ces mulets pour se rendre dans les forges souvent installées en pleine forêt et qui n'étaient accessibles qu'aux personnes et aux bêtes allant à pied. De la même façon, on utilisait souvent des ânes pour se rendre chez le meunier. On mettait alors le grain dans un très grand sac que l'on remplissait à moitié et que l'on plaçait ensuite sur le dos de l'animal. Concernant le roulage animal, on utilisait la charrette fourragère à paille ou à foin, le tombereau qui possédait un système de bascule qui permettait de décharger sans qu'il soit nécessaire de dételer les animaux, le char à banc qui servait à la fois pour les déplacements du maître de maison et de sa famille, pour le transport à la foire de petits animaux, les porcelets ou les moutons. Il était tiré par un cheval, par un mulet ou par un âne. Nous allons illustrer avec un texte de Paul Lavergne, extrait de L'enfant sous les charmes. Doudy et sa grand-mère Miette vont à la ville et pour cela elles empruntent la carriole du coquetier Mouffin. Ça y est, tu es prête? Allez, va dire à Mouffin que j'arrive et attends-moi à la carriole. Elle arrive en courant à la carriole de Mouffin. Le mulet est attelé. Doudy déjà installé parmi les caisses. « Juchez-vous à côté de la petite, Miette, » dit Mouffin. « Casez-vous comme vous pourrez, hein. Ma carriole n'est pas un carrosse. » À son tour, le coquetier grimpe sous la bâche. Il est si lourd que le harnachement craque sur les reins du mulet et que la charge maintenant se trouve mal répartie. « Reculez-vous vers le fond, Miette. Ça pèse trop en avant. » L'équilibre est enfin rétabli. Le mulet démarre d'un bon coup de collier. « Ah, il y en a pour une heure et demie de voyage. On irait plus vite à pied, » dit Mouffin, « mais si le mulet trottait, je casserais toute ma marchandise et je serais un homme ruiné. » L'émotion prend Doudy à la gorge. Elle n'ose pas bouger de peur de casser un œuf et de ruiner le coquetier. « Allons, allons, Barnabé !» fait le coquetier en agitant les guides sur l'échine du mulet, aussi pointu qu'un pignon. « Hé là, dit Miette, de quel nom l'appelez-vous » Le vieux rit en tordant sa bouche. « Oh, je lui donne toujours le premier nom qui me vient aux lèvres, mais il comprend bien l'animal. » Le mulet active un peu son train. Il paraît si mince, si petit, vu la hauteur du chargement où Doudy est juché, qu'elle ne se sent pas vraiment à l'aise. « J'aimerais autant aller à pied, mémé, » dit-elle. « Ah non, ma fille, c'est trop loin pour tes petites jambes. Mais ce pauvre mulet... »« Ah ben si tu plains le mulet, » dit Mouffin, haussant les épaules. Doudy n'ose plus articuler un mot. Elle voit venir le poteau sans broncher, la croix, le carrefour, tout lui est indifférent. Elle pense que ce n'est pas le mulet qui devrait tirer la carriole, mais ce gros ventru de coquetier. Bientôt, elle s'habitue au mouvement des oreilles de la bête. Le mulet ne paraît pas si triste. Il est accoutumé à tirer cette guimbarde surchargée et à s'entendre dire « Allons, allons, Barnabé !» le monotone roulement de la charrette calme l'irritation de Doudy. On traverse les bois de chez Pabot, on monte la dure côte de Rouffignac contre laquelle les fers du mulet se cramponnent. De temps en temps, la fillette ferme les yeux et il lui semble alors que la voiture revient en arrière. Les grêles sonnailles de l'attelage ont l'air de teinter du côté de Champeau à bonne distance dans le brouillard et l'on ne sait plus très bien où l'on se trouve. Doudy s'empresse de fermer les yeux et de rejoindre dans la brume le joyeux tintement des grelots. Mais on arrive à Mazerolles. « Allons, Doudy, saute dans mes bras, n'aie pas peur !» dit Miette contre le brancard. « Je crois que tu sommeillais, fillette !» Du haut du chargement, Doudy se lance dans le vide. C'est une impression affreuse. Comment les maigres bras noueux de grand-mère réussiront-ils à accrocher ce petit paquet de tissu écossais coiffé d'un chapeau blanc? Heureusement, les larges mains du coquetier se sont trouvées à point. « À ce soir, Mouffin !» dit Miette. Avant de terminer, précisons que dans la toute première émission des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche, nous nous étions intéressés aux colporteurs qui, eux, portaient leurs caisses ou leur ballot sur le col, sur le cou, d'où leur nom. Nous avions également observé que les épiciers, en particulier les caïphas, qui parcouraient nos campagnes, utilisèrent d'abord des carrioles tirées par des chiens, puis par des chevaux. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai consacrée au passage et au chemin jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Bernard Stéphane, d'Eugène Weber, d'Albert Hiverneau, d'Albert Gourceau, de Charles Sylvestre, de Roger Drouot, de Jules Marouzeau, de Maurice Robert et de Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, Le Grand Rouge, Mélusine, La Chiffonie, Caté et les Ramancheurs, Arzian Deum, les compositeurs Adrien Leroy et Guillaume Costelet que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.